J'ai fait des petits portraits aussi.
On a beau faire ce travail de révélation, ça n'est pas entendu. Il y a un déni, toujours. Il y a effectivement un écran. Comme...
Quelques portraits subjectifs, quoi. Enfin,
Moi, je comprends que
les gens tels que je les ai vus en les rencontrant.
Que les journalistes, à un moment, disent « Ah bah oui, ça continue ». C'est vrai que c'est côté lancinant.
Autour de Terre commune, une thématique sur l'antenne de la Grenouille jusqu'à samedi 27 octobre, à l'occasion de la sortie du web-documentaire d'Emmanuel Vigier, intitulé « Terre commune », à découvrir sur terrecommune.fr. En direct et en public, depuis le Transistor à la Friche Labelle de Mai, voici un second plateau radio. Après l'exercice de la solidarité, hier, que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur radiogrenouille.com, ce soir, et pour une petite heure, nous allons débattre sur le thème médecine et exclusion. Comment les politiques et pratiques de santé prennent en compte les sans-abri et les personnes en situation de grande précarité, en France, et tout particulièrement à Marseille. Pour en parler sur ce plateau, nous accueillons le professeur Philippe Jean, qui dirige les urgences de l'hôpital Nord. Et évidemment, les services d'urgence des hôpitaux sont en première ligne pour soigner les personnes qui vivent dans la rue. Un autre urgentiste qui devrait, du moins j'espère, nous rejoindre dans quelques instants, c'est Hans Gadelius. Hans Gadelius qui, de plus, intervient sur une cellule d'addictologie, un aspect des pathologies récurrentes chez les gens de la rue dont on ne manquera pas de parler au cours de ce débat. Le docteur Vincent Girard, psychiatre, qui travaille tout particulièrement avec les gens de la rue à Marseille, et des gens de la rue dont une proportion importante sont en situation de souffrance psychique à des degrés divers, en espérant là aussi que le docteur Vincent Girard n'ait pas oublié notre rendez-vous. Enfin, Perrine Malzac, qui est bien présente sur ce plateau radio, Perrine Malzac, qui travaille avec l'espace éthique méditerranéen, à la Timone, Perrine Malzac qui est par ailleurs généticienne, on abordera en sa compagnie quelques questions sur l'éthos des pratiques de soins avec les gens de la rue. Mais je vous propose de commencer cette discussion par un tableau clinique de la situation. On sait que la rue est un environnement dur et hostile, peu favorable à une bonne santé, au point que l'espérance de vie d'un SDF est à peu près comparable à celle d'un habitant des pays les plus pauvres du tiers-monde, de l'ordre de 40 ans, je crois. Alors peut-être, docteur Philippe Jean, quelles sont les pathologies les plus fréquemment rencontrées chez les gens de la rue, telles que vous pouvez les constater dans votre service d'urgence ?
Évidemment, on est confronté... D'abord, bonsoir.
Bonsoir.
On est confronté à de multiples situations qui agressent les personnes en situation de précarité et d'exclusion, à la fois en raison de l'exposition au risque au pluriel, en particulier au risque infectieux, tout notamment, mais également à tous les problèmes liés aux conditions de vie et aux mauvaises conditions de vie. Il est vrai que selon les saisons, plus les pathologies sont différentes, mais un des gros problèmes auxquels on est confronté en termes de pathologies organiques, somatiques, qui agressent les personnes précaires, sont les problèmes infectieux. C'est vraiment l'infection, moi, qui me paraît être l'élément le plus préoccupant, car c'est celui qui traduit la faiblesse de l'organisme face à au risque bactérien viral, là où les personnes bien nourries, bien protégées se prémunissent, se vaccinent ou autres. Eh bien, finalement, les personnes en situation précaire, elles sont totalement exposées à peu près non seulement tous les risques qui sont ceux de la vie de tous les jours, ne serait-ce qu'une banale grippe qui pose tant de problèmes, on en parle tous les hivers, mais les précaires y sont également exposés et avec évidemment des conséquences importantes sur le plan respiratoire. Mais également certaines infections auxquelles on ne pense pas toujours le plus, mais qui sont de grande actualité, comme la tuberculose. La tuberculose est un réel problème.
On parle d'une recrudescence de cette maladie.
On parle d'une recrudescence de cette maladie. Elle existe dans toutes les couches sociales et dans toutes les populations, mais particulièrement chez les personnes précaires, avec donc des problèmes de diagnostic, de suivi, également de contagiosité, qui peuvent être effectivement très importants. temps. Et ça, c'est un problème très préoccupant.
Est-ce que cette augmentation pourrait prendre un caractère épidémique ?
Peut-être pas, parce que le reste de la population est bien protégée, en quelque sorte, et suivie, ce qui permet de limiter le risque. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un risque de contamination au sein du groupe, effectivement, des personnes de la rue, mais en même temps, pour toutes celles qu'elles côtoient. Alors, peut-être que lorsqu'on voit une personne précaire dans la rue, on a peut-être un réflexe qui consiste à l'éviter en passant un petit peu au large, mais il n'empêche qu'effectivement, c'est quand même un vrai problème de santé publique. Et puis, il y a des infections, alors, qui sont beaucoup moins apparentes, qu'on a découvertes par tous les travaux qui ont été faits sur le statut infectieux des personnes en situation précaire, et avec des germes de la même famille que ceux qui transmettent le typhus en particulier, et qui peuvent entraîner de façon tout à fait silencieuse ou inapparente des dégâts qui sont parfois extrêmement importants, en particulier sur le plan cardiaque.
Et puis, j'imagine, est peut-être lié à des pratiques d'addiction, une recrudescence aussi de l'hépatite C.
Alors ça, je pense que notre ami Hans Gadelius en parlera encore mieux.
Mais docteur alors... Hans Gadelius qui vient de nous rejoindre à l'instant. Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Alors, il y a une exposition au risque viral liée, bien évidemment, aux conditions de vie et au manque d'hygiène. C'est l'hépatite C, c'est le VIH, bien entendu. Mais ce n'est pas forcément le motif qui amène ces patients aux urgences. Alors, dans les autres situations auxquelles nous sommes confrontés, il y a toutes les conséquences de la dénutrition ou de la malnutrition, toutes les carences alimentaires, les carences vitaminiques, les carences de tout ce dont on se nourrit tous allègrement et joyeusement, et qui mettent l'organisme de la personne précaire en situation de très grande fragilité sur pratiquement tous les organes. Tout peut être atteint et donc être à l'origine, là encore, de la greffe, en fait, d'une autre affection par-dessus, notamment une affection infectieuse. Et puis, bien sûr, le problème de l'alcool, qui est... peut-être pas forcément interprété peut-être de la même manière que dans l'alcoolisme des bons buveurs, si je puis dire, et qui rentre dans un processus, un environnement et des comportements de nature totalement différente.
On va parler de ces pratiques addictives dans un instant avec Hans Gadelius qui vient de nous rejoindre, mais peut-être un mot encore sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans les pathologies vraiment récurrentes chez les gens qui vivent dans la rue et liées aux conditions d'hygiène déplorables, hein, évidemment, dans la rue. Ce sont des problèmes dermatologiques.
Alors, les problèmes dermatologiques qui sont effectivement très fréquents, la peau du précaire est en permanence agressée, infectée et dégradée. Avec cette représentation du corps qui n'existe plus de la même manière chez la personne précaire, qui fait que le problème cutané passe finalement peut-être au second plan, ça n'est plus l'apparence qui parle en premier, et pourtant ce sont des problèmes. Alors il y a des problèmes parasitaires, bien entendu, des problèmes infectieux, des problèmes dermatologiques, et puis, et on en reparlera sans doute aussi après, on ne l'a pas évoqué, tous les problèmes liés à la souffrance psychique et à l'agression psychique de la vie dans la rue.
On espère effectivement en parler avec Vincent Girard. Vincent Girard, si vous nous écoutez sur les ondes de la grenouille, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au plus tôt. Mais peut-être est-il actuellement en consultation avec une urgence. On peut comprendre aussi que vos métiers vous exposent à ce type de désagrément. Parlons justement de cette question de l'alcool et des addictions avec vous, docteur Gadelius. Outre votre rôle d'urgentiste, vous travaillez aussi, je crois, dans une cellule qui est particulièrement active dans ce domaine de la lutte contre les addictions et contre l'alcoolologie.
Bon, je travaille dans un petit centre pour l'instant, mais j'ai travaillé sur le bus méthadone, donc médecin du monde, et puis maintenant 31-32, bus méthadone pendant quelques années. Et dans ce cadre-là, ça m'a mené effectivement à rencontrer des publics précaires exclus et usagers. Donc plutôt là, c'est plutôt spécialisé dans tout ce qui va être opiacé, héroïne, donc héroïne, puis après méthadone qu'on distribue pour pallier donc, aux patients dépendants. Et c'est vrai qu'actuellement, là, vraiment par rapport à l'entrée des urgences, c'est effectivement l'alcool qui me semble être le problème le plus large, en sachant que même ces usagers de méthadone, en général, quand ils arrêtent la méthadone, pour fonctionner, en fait, ont besoin d'autres produits, notamment l'alcool, qui pose quand même pas mal de soucis. Enfin, c'est vraiment le truc qui... Enfin, dans un pays comme la France, où ça représente en plus un problème de santé publique, mais en même temps d'ordre public, mais aussi d'économie publique, enfin, c'est peut-être pas le mot consacré, mais 20% du PIB, je crois, à peu près, si on mélange un peu de tout. Donc forcément, il y a un problème socio-culturel important par rapport à l'alcool, avec des usages moultes et variés, et pas mal de cas de dépendance, et surtout des sevrages, d'autant plus difficiles que c'est intégré au mode de vie français de boire. Donc du coup, ça pose beaucoup de problèmes.
Alors les pratiques de soins ont longtemps été prudes et ont un petit peu refusé de voir ce qui se passait effectivement dans la rue, et notamment en termes d'addiction, et notamment en termes d'addiction à l'héroïne. On parle aujourd'hui de l'apparition de salles de shoot qui permettent donc de pouvoir s'injecter des substances prohibées, mais de le faire dans des conditions à peu près saines, enfin, si on peut dire, enfin, en tout cas avec le moins de risque d'infection, de surinfection possible. Quelle est votre position par rapport à ça ?
Je pense que c'est nécessaire, d'autant plus que, bon, pour avancer un peu sur le débat, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même, on touche, enfin, en tant que professionnel, il y a toute une catégorie de patients, donc injecteurs, qu'on ne touche pas dans les institutions de base. Et surtout, ce qu'on ne touche pas, c'est le comportement, en fait. Le comportement lui-même, même si on a beau faire de la pédagogie, etc., on peut le faire pendant des années, on va dire, avant de toucher vraiment ce qui est le centre du problème, c'est-à-dire les erreurs qui vont éventuellement conduire à une surinfection, quelque chose, ou donc une surinfection, un abcès, hépatite, sida, tout ça, avec le seul moyen vraiment de repérer les erreurs. Premièrement, de repérer les erreurs, ça va être de voir faire la personne. Dans ce cas-là, on peut vraiment corriger les petites erreurs, donc de manipulation, ou de choses comme ça, ou des rituels, hein, déconstruire des rituels qui sont centrés sur la préparation, hein, du shoot. Ensuite, il y a aussi l'aspect prise en charge précoce, beaucoup plus précoce, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que les usagers viennent souvent dans des endroits chercher les seringues, mais c'est très, comment dire, impersonnel. Donc là, on rentre déjà dans une relation qui est dans une relation, donc ce qu'on appelle le cocologue singulier, c'est-à-dire qu'on est avec la personne. C'est comme quand vous allez chez votre médecin généraliste, vous dévoilez pas de la même façon que quand vous allez acheter vos médicaments en pharmacie. Vous imaginez, si vous deviez faire la consultation à l'accueil devant le comptoir du pharmacien, ce serait beaucoup plus délicat. Et évidemment, beaucoup plus pauvre, parce que l'examen clinique ne pourrait pas se faire, etc. Donc c'est un peu la même représentation qu'il y a entre délivrer juste des seringues et accompagner quelqu'un dans le geste de l'injection. On se rend compte aussi que la prise en charge est meilleure et que les gens injectent moins longtemps quand ils sont pris en charge dans une salle d'injection que quand on donne juste des seringues, ce qu'on fait actuellement en France.
Et puis évidemment, ça évite de retrouver quelqu'un raide mort sur le trottoir. J'imagine qu'en cas d'overdose, il peut y avoir une réaction plus rapide.
Voilà, c'est ça, c'est la précocité. Cela dit, les overdoses importantes qu'on voit arriver aux urgences aujourd'hui sont souvent le fruit de... Enfin, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, c'est-à-dire que c'est le désespoir, mélange de produits, surconsommation et mélange, donc ce qu'on appelle entre guillemets la polytoxicomanie, mais dans ce cadre-là, avec presque une démarche suicidaire, ce qui n'est pas du tout la généralité, loin de là, des usagers. Ce n'est pas de l'autodestruction, c'est surtout comment vivre mieux. C'est quelque chose qui va un peu contre le sens commun de ce qu'on pourrait entreprendre dans les addictions, mais c'est un peu ce qu'on remarque, nous, c'est que finalement, quand on écoute les gens, quand on les écoute raconter leur histoire, ça part souvent du fait que finalement il y a une rencontre avec une personne avec un produit, et l'histoire commence vraiment entre guillemets quand la personne se rend compte que finalement elle fonctionne mieux avec le produit. Et c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que il ne s'agit pas juste d'enlever le produit pour que les choses aillent mieux, ce serait trop simple, hein, c'est bien ça le fond du problème, c'est que finalement, avec ou sans, il y a quelque chose qui ne va pas, donc c'est comment arriver à combler les choses pour que ça roule sans le produit.
Alors pour terminer ce petit tableau clinique, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais en tout cas une évocation des pathologies récurrentes chez les gens qui vivent dans la rue. Évidemment, il faut aborder la question des maladies chroniques, parce que c'est elles, j'imagine, qui vous posent bien du souci. Traiter quelqu'un un jour parce qu'il vient consulter, il vient par exemple aux urgences à l'hôpital, alors il y a une première amorce de traitement, mais ce traitement, il ne vaut que s'il est suivi. Et ça, j'imagine que c'est une grande difficulté, voire même une frustration pour vous, Philippe Jean.
C'est une très grande difficulté. Elle se situe à deux niveaux. D'une part, le fait qu'une personne va fréquenter à un moment le service d'urgence en raison de cette pathologie, d'ailleurs, ou peut-être d'autres choses qui survient de façon intercurrente. Puis cette personne va, entre guillemets, disparaître dans la nature. Et effectivement, on a la notion, le sentiment d'une pathologie qui nécessiterait une prise en charge suivie, une régularité, une adhésion à un projet de traitement. C'est déjà très difficile, même chez certaines personnes structurées et socialement intégrées, de s'engager sur une prise en charge au long terme pour des maladies chroniques. Alors, dans le contexte de la précarité et de l'incertitude, c'est encore plus difficile. Et pour nous, effectivement, on sait que quelqu'un repart avec une maladie éventuellement évolutive sans qu'on puisse la suivre. Il peut y avoir parfois quelques situations un peu particulières, telles que celles de nos habitués. On a quelques personnes, effectivement, qu'on connaît, qui reviennent de façon un peu régulière. Et à un moment, on avait même sous le coude quelques petites notes sur certains patients, de façon à ce que, lorsque les équipes médicales changent et tout, on puisse avoir une sorte de dossier médical qui permette d'assurer le suivi et de donner, effectivement, sur un problème particulier, une position à un moment donné. Sachant que, de toute façon, telle personne qui sera passée, mettons, aux urgences de l'hôpital Nord, ira peut-être le lendemain ou le surlendemain aux urgences de la Conception, puis à la Timone, et il va y avoir effectivement cette...
Mais il y a un dossier médical à ce moment-là qui permet de suivre ce parcours ?
Non, parce qu'il n'y a pas de dossier médical unique qui permette de suivre le parcours ou la trajectoire dans toutes les structures de soins. Il y a différents points de vue, d'ailleurs. Est-ce qu'on a le droit de mettre au fond un dossier, une fiche ou quelque chose qui caractérise le patient? Il y a quand même là aussi un peu des problèmes, un peu aussi sur la confidentialité. Qu'est-ce que l'information partagée? Dans une structure, pour un praticien donné, c'est une chose, mais est-ce qu'on peut imaginer... Enfin, il y a à la fois le sentiment de devoir être utile à la personne de façon à ce que l'information qui le concerne puisse être partagée, mais en même temps aussi le respect d'une individualité et des conditions de prise en charge de la personne en question. C'est très délicat, peut-être que sur le plan éthique, le débat peut être engagé. Pour en revenir au problème chronique, c'est un vrai problème, c'est une vraie difficulté, mais ça n'est pas la seule. Une de nos préoccupations, c'est lorsqu'un patient va être hospitalisé, parce que je parle bien d'un patient, hein, je ne parle pas d'un précaire, c'est un patient comme les autres, il va devoir être hospitalisé parce qu'il a une maladie qui nécessite l'hospitalisation, va faire ce qu'il faut et on va le mettre dans un lit, ce qui ne va pas toujours d'ailleurs être facile, mais on le fera. Et après, à la sortie de l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer ? On en parlera peut-être après, quelles sont les conditions de suite. Et quand on fait rentrer quelqu'un à l'hôpital, c'est vrai qu'on a d'emblée cette préoccupation de savoir si, maladie chronique ou aiguë, quelles vont être les conditions du suivi.
Alors, on l'a entre-évoqué à l'instant, une question éthique qui peut-être se dessine déjà, Perrine Malzac, sur cette question des données médicales, de leur transmission, sur le secret finalement médical. C'est une, comment dire, une valeur absolue, ce secret médical?
C'est une valeur absolue. Non, le secret médical, il vient pour ces personnes-là, comme pour tout autre dans le système de santé, protéger des données confidentielles, importantes, intimes de la personne, dans le cadre d'un échange avec un praticien ou une équipe, de façon à ce que ces données ne soient pas diffusées, ne soient pas utilisées contre la personne. Alors effectivement, la difficulté, c'est que par ailleurs, ce secret, cette confidence qu'on accorde aux personnes malades dans le cadre de leur prise en charge, vient parfois s'opposer à la nécessité que l'information circule, que un nombre plus important de personnes puissent en bénéficier pour une meilleure prise en charge. Et la question du secret partagé est une question importante, effectivement, au sein d'une équipe autour d'un malade, d'un patient quel qu'il soit, mais entre plusieurs équipes de plusieurs établissements, et je pense en particulier pour ces personnes-là, le partage d'informations utiles dans le cadre d'une prise en charge médico-sociale, donc avec aussi les professionnels du monde social, voire du monde associatif. Alors après, voilà, la question est très complexe, parce que est-ce que ces données de santé vont être utiles à tous et à quel degré pour accompagner au mieux ces personnes dans l'ensemble de leur parcours, que ce soit donc pour une meilleure prise en charge de leur santé, mais aussi pour une meilleure prise en charge d'accompagnement social.
Alors je précise juste à l'instant pour ceux qui nous écoutent que le bruit strident que vous entendez peut-être en arrière-plan ne tient pas au fait que nous sommes dans un cabinet de chirurgie dentaire, mais que nous sommes au Transistor, un nouveau lieu partagé entre Grenouille et Zinc, et que cette partie de la friche est encore en chantier. Il doit y avoir un ouvrier là qui a un travail à terminer. Je vous signale aussi que le docteur Vincent Girard vient de nous envoyer un texto pour nous signaler qu'effectivement il avait une urgence, donc il est tout à fait excusé de son absence sur ce plateau. Je voudrais vous proposer maintenant de parler de l'accueil à l'hôpital. Les sans-abri, ils arrivent à l'hôpital comme ils sont, c'est-à-dire pas forcément très propres. Alors comment faites-vous dans cet accueil à l'hôpital ? Vous leur donnez des vêtements propres, par exemple, pour qu'ils puissent sortir avec autre chose que leurs vieilles hardes avec lesquelles ils sont arrivés ? Et pour ça, est-ce que vous êtes en lien avec des associations, par exemple, qui permettent de vous donner des vêtements, Hans Gadelius ?
Globalement, on a donc un stock de vêtements qui sont dans les urgences, qui sont probablement plus de fait des soignants qui amènent leurs vêtements. Moi j'amène mes fonds de placard, éventuellement je les ramène. Et ça tourne à peu près. Après, je ne sais pas si on a des conventions avec.
Effectivement. Alors déjà, quand ils arrivent tels qu'ils sont. Et moi, je dirais, les urgences, c'est finalement l'exclusivité de la prise en charge un peu de ces personnes, parce qu'on nous les amène telles qu'elles sont. Et quand on ramasse quelqu'un dans la rue, en dehors des foyers d'hébergement, bien entendu, et des structures d'accueil pour ces personnes, lorsqu'il y a le moindre doute, on les amène à l'hôpital. Donc on a l'habitude de ces patients qui arrivent dans des états parfois vraiment, vraiment pitoyables. Et on a l'habitude de les prendre en charge. Et même s'ils ne sont pas toujours très très d'accord, d'essayer quand même un peu de les nettoyer, de les laver, pour leur redonner une certaine dignité. Alors peut-être dignité au sens où nous l'entendons, par rapport à nos références, par rapport à nos standards de propreté ou autre, dont on sait que aussi la compréhension par ces personnes dans leur milieu n'est plus du tout de même nature, on n'est plus du tout dans le même référentiel. Mais on considère que c'est de toute façon aussi en termes d'hygiène un service à leur rendre. Et effectivement, on leur donne des vêtements collectés d'un peu partout, parce que je crois que, notamment dans le milieu hospitalier, les gens sont quand même assez généreux et ne conçoivent pas de jeter des vêtements sans qu'ils puissent être utiles à quelqu'un d'autre. Et donc, on a toujours un stock de vêtements. Il y a toujours des gens qui viennent nous donner quelque chose. On a quelques associations qui peuvent nous aider ponctuellement, qu'on peut solliciter, effectivement, pour avoir des vêtements. On a chaque année, c'est les Lions Club qui nous fournissent des sous-vêtements. Parce que des vêtements, des pantalons, des chaussures, des chemises, on a tendance à les donner. Est-ce qu'on donne ces vieux caleçons ou ces vieux soutiens-gorge ? Et c'est vrai qu'on a une certaine réticence, finalement, à donner. Or, ça, on en a énormément besoin. C'est les premiers vêtements que l'on porte, les sous-vêtements et les chaussettes. C'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, alors ça, c'est un petit peu organisé d'une façon un peu intuitive. Mais tous les services d'urgence ont leur local avec leurs vêtements, qui parfois, d'ailleurs, quand on voit dans certaines situations, notamment l'hiver, où on va voir des personnes qui vont revenir entre guillemets régulièrement, qu'on aura vêtu de propre, qui vont revenir souillés, mais qu'on va revêtir de propre, et ainsi de suite. C'est au moins le minimum qu'on puisse faire.
Alors un autre aspect de cet accueil à l'hôpital, c'est ceux qui vous amènent les patients, c'est-à-dire le SAMU parfois, mais aussi, j'imagine, souvent concernant les sans-abri, le SAMU social. Quel regard vous portez sur le fonctionnement du SAMU social ? Un SAMU social qui est à Marseille, et il faut bien le dire, parfois très critiqué, Hans Gadelius.
Bah, globalement, la collaboration se fait de fait. Hein, je veux dire, c'est quelque chose qui est nécessaire, ne serait-ce que pour faire des maraudes et ramener les gens, en sachant que plus que le SAMU social, c'est plus les pompiers qui nous ramènent les personnes. Le SAMU social, par contre, peut les accompagner vers un centre d'hébergement d'urgence. Il y a eu, on va pas dire que c'est sans souci des fois, puisqu'on a des patients qui peuvent globalement déjà avoir plusieurs pathologies, dont des handicaps, et que du coup, la limite de temps en temps entre, est-ce qu'on peut renvoyer, enfin, la question se pose toujours, hein, quelqu'un qui est encore un petit peu alcoolisé, mais qui veut absolument partir, et puis ils viennent surtout une certaine heure. Donc il y a des petites contraintes comme ça, et l'heure d'ouverture des foyers d'urgence est aussi une autre contrainte. Donc on fait avec, mais je dois avouer que globalement ça se passe plutôt bien et qu'ils sont réceptifs et puis c'est vrai, font preuve d'un humanisme important dans la façon de prendre les choses. Après, il est sûr que dans les foyers, pour y avoir fait des permanences ou des séances de dépistage plus en tant qu'hospitalier, c'est vrai que le fonctionnement est pas forcément facile, c'est très difficile, il y a un turnover très important, c'est très dur comme travail, hein, parce que entre le côté de l'accompagnement sympathique, idéal, etc., et quelque chose d'un peu plus violent, alors j'ai pas commencé, enfin je pourrais être beaucoup plus dur, mais je vais pas le faire en ligne là, ce sera en aparté, mais des fois
si vous le voulez, faut dire les choses
ouais
parfois.
Non mais voilà, c'est vrai que des fois voilà, essayer de faire avancer quelqu'un qui a picolé un maximum de 5 mètres, vous y passez 3 heures, donc imaginez 300 personnes comme ça dans un centre, enfin c'est pas le cas non plus, mais enfin j'exagère un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est difficile, donc tout dépend des missions qu'on a. Si on a une personne à s'occuper de la faire avancer de 5 mètres, etc. Si en plus il faut lui faire notamment des soins, et s'occuper aussi des autres et qu'il y a en plus un horaire et qu'il faut faire la course, au bout d'un moment ça devient un peu on a l'impression d'être avec son martinet et puis d'être plutôt coercitif. Donc ça, j'ai vu ça dans certains centres de foyers d'hébergement d'urgence, mais c'est vrai que ça fait un peu des fois et après en fonction des individus et de leur profil, c'est sûr que et même aux urgences des fois on peut forcément être un peu agressif parce qu'on est dépassé par le temps. Quand il y a quelqu'un qui pour faire 5 mètres il faut 3 heures alors qu'on a 20 patients en temps réel à gérer et des urgences graves, enfin c'est un peu pas ça ce qui se passe en ce moment. Certaines fois on a 20 patients en même temps. Il y a des médecins qui vont 20 patients dans la journée. Nous, on arrive à la relève le soir à 18h. On s'en prend 20 d'un coup. Et du coup, c'est vrai que c'est... Et puis avec des pathologies multivariées. Donc si quelqu'un qui vient déjà pour... A priori, pas grand-chose. On ne sait pas avant, mais on sait après. Qui vient parce qu'il a juste faim et qu'il est fatigué d'être dehors et qui passe. C'est sûr que ça se fait aux dépens de la petite dame qui a 90 ans, qui est dans le box je ne sais pas combien et qui, elle, souffre vraiment de rester 10 heures sur un brancard.
Philippe Jean.
Oui, je crois qu'enfin, effectivement, comme le dit Hans Gadelius, l'exercice est très difficile. Il y a les deux aspects à prendre en compte. D'une part, la maraude, effectivement, et le contact avec les personnes sans abri dans la rue, dans des conditions climatiques parfois difficiles, dans des endroits totalement insalubres. Tout, il faut le faire, il faut y aller, et essayer d'éventuellement de convaincre quelqu'un qui ne veut absolument pas se laisser faire. Puis il y a le côté hébergement aussi, dans l'unité d'hébergement, qui est celui quand même d'un lieu dont on peut toujours discuter, mais qui n'aura jamais vocation à être un hôtel 4 étoiles, malheureusement, parce que les conditions et les difficultés de l'exercice rendent l'environnement difficile. Mais je crois surtout ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ça fonctionne. Ça fonctionne toute l'année à Marseille, ce qui n'est pas le cas forcément partout ailleurs, et que, dans un contexte extrêmement difficile, avec des populations difficiles, je crois que pour ceux qui pratiquent la fonction, c'est aussi difficile.
Quelques secondes de son avant de reprendre notre conversation sur un autre point, et notamment sur l'accès aux soins et la pratique de la médecine aujourd'hui. On écoute Calvin Russell, Petit Gars.
Un petit gars marchait dans la rue, en croyant
pas cher de Raymond Vieux. Gros-Luc Lecoq, pas le menu. Pas un bal, t'as bien vu. File-moi un bal. File-moi un bal. File-moi un bal. J'ai vraiment la dalle. Demanda au garçon de coin, frugal repas j'étais commandé. Tout le client est estomaqué. En si petit gars, autant infamé. File-moi un bal. File-moi un bal. File-moi un bal.
Médecine et exclusion en public et en direct depuis le Transistor dans le cadre de la thématique autour de Terres communes. On reprend notre conversation pour commencer à aborder l'accès aux soins. En effet, notre système de santé est, dit-on, très performant et la CMU le rend censément universel. Mais il y a une limite quand même. Pour avoir la CMU, il faut être inscrit à la Sécurité sociale, il faut avoir des papiers. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les SDF et pour de nombreuses raisons. Alors comment est-ce que l'hôpital soigne tous les patients, même et y compris ceux qui n'ont pas de papier ? Est-ce qu'il y a des dispositifs pour permettre cette prise en compte, cette prise en charge ?
Mais déjà, la première chose, c'est que tout patient qui se présente aux urgences, en l'occurrence, enfin ce qui concerne déjà l'entrée par les urgences, sera pris en charge sans préjuger d'une quelconque façon, de sa couverture sociale. On réglera le problème après. Si problème, d'ailleurs, on peut régler, puisque dans un certain nombre de cas, on s'aperçoit que l'hôpital se traîne ce qu'on appelle des créances irrécouvrables, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas solvables, quoi qu'on fasse, mais que de toute façon, l'hôpital public se doit naturellement de prendre en charge. Et il n'est pas question de refuser qui que ce soit au motif qu'il n'y aurait pas de couverture sociale. Ou en tout cas, ce n'est pas la vision des choses des urgences. Mais derrière tout ça, il y a le problème de l'opportunité. Car au fond, quelqu'un qui n'a pas une couverture sociale, quelle qu'en soit la nature, qu'elle soit organisée, qu'elle soit solidaire ou autre, et dont on va avoir connaissance qu'il y a effectivement un déficit de couverture sociale, c'est une opportunité d'essayer de régler un petit peu les choses. Il y a donc à l'hôpital tout un dispositif donc de travailleurs sociaux. Nous, on a une assistante sociale aux urgences, pour les urgences, que l'on sollicite dès qu'on a la moindre question ou le moindre problème, qui est articulée avec le service social de l'hôpital, et en particulier la PASS, la permanence d'accès aux soins de santé, dont la mission est effectivement de se pencher sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer chez les patients, pas uniquement des urgences, de l'hôpital, et pour lesquels il y a à mettre en œuvre des dispositifs de couverture sociale. Alors, ça n'est pas parfait. On ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais on se rend compte parfois qu'on est amené à aller très loin. Vous voyez, par exemple, on a dans le cadre des urgences une unité dite d'hospitalisation de courte durée où on doit garder des personnes 2 jours maximum. Il nous est arrivé de garder certaines personnes 1 mois, même parfois plus, la courte durée, là, ce n'est pas tout à fait le cas, pour régler des problèmes sociaux. Et je peux vous garantir que notre assistante sociale, qui est acharnée, va chercher toutes les possibilités pour arriver à résoudre les problèmes. Et finalement, on se rend compte qu'il y a encore quelques situations sur lesquelles on bute, hein, c'est des impasses en quelque sorte, qui sont plus les problèmes qui tournent autour des étrangers en situation irrégulière, pour lesquels vraiment, ou ceux qui sont en statut touristique en quelque sorte depuis peu de temps sur le territoire, sur lesquels on a quelques difficultés. Mais on essaye toujours de trouver des solutions pour résoudre ces problèmes.
C'est évidemment un problème éthique aussi. Je rappelle à cette occasion une phrase de Louis Pasteur qui dit « On ne demande pas à un malheureux de quel pays es-tu, ni quelle est ta religion. On lui dit « Tu souffres, cela me suffit, je te soulagerai. Et c'est évidemment en écho à ce fameux serment d'Hippocrate que prononce en principe chaque médecin. Alors peut-être Perrine Malzac sur la valeur aujourd'hui de ce serment d'Hippocrate. C'est juste une sorte de rite de passage quand on acquiert la dignité de médecin, ou bien c'est plus important que ça et c'est vraiment fondamental. Perrine Malzac.
Alors, je pense qu'il y a une valeur de rite de passage, effectivement, dans le fait de prononcer ce serment d'Hippocrate le jour de sa thèse de médecine et puis de le rappeler devant les autres. Mais au-delà de la manière dont est rédigé ce serment d'Hippocrate et dont qu'il est prononcé, je pense quand même qu'il a en lui encore un certain nombre des valeurs qui sont reprises dans notre société, peut-être sous d'autres formats, et en particulier cette idée que les professionnels de santé, quand ils s'engagent réellement dans cette profession, s'engagent aussi effectivement à accueillir toutes les personnes telles qu'elles sont. Alors, aujourd'hui, probablement, dans notre système de santé, certains des aspects de ce serment d'Hippocrate, et en particulier cet aspect de soigner chacun sans se préoccuper de ses caractéristiques, de est-ce qu'il peut payer ou pas, de qui il est, cette ouverture à la personne qui souffre et les droits qu'il a à être soigné, peut parfois se heurter à un système de santé beaucoup plus organisé, beaucoup plus contraignant. Et un certain nombre des contraintes de ce système, probablement, parfois, mettent en difficulté les professionnels qui, eux, spontanément, ont ce mouvement, je pense, d'ouverture. Et parfois, on peut ressentir une certaine détresse à ne pas pouvoir faire comme ils penseraient moralement devoir faire. Je pense que c'est une des difficultés même. Alors, les urgences, c'est un lieu particulier parce qu'effectivement, les portes sont ouvertes. Mais je pense qu'après, dès qu'on va un peu plus loin, après les portes des urgences, ces problèmes-là, les soignants les perçoivent en termes justement de dilemme éthique, c'est-à-dire comment être respectueux de ces valeurs que le serment d'Hippocrate nous enjoint de respecter, et en même temps comment répondre aux injonctions de ce système de santé qui parfois nous impose des comportements qui sont un peu à l'encontre de ce serment d'Hippocrate.
D'autant que ce système de santé, il se réforme en ce moment, on en parlera dans un instant. Juste une réaction, Philippe Jean.
Une petite réaction, donc je partage complètement votre point de vue. Avec quand même juste une petite réflexion. Le serment d'Hippocrate, finalement, on le prononce une fois. Le jour où on passe sa thèse, et on est ému, c'est quand même un grand moment, effectivement, on est dans le passage, et celui qui va conférer, effectivement, l'achèvement de tout le processus, c'est donc de la pleine possession de sa fonction de docteur en médecine. C'est un texte qui peut paraître un peu désuet, peut-être, mais dont chaque phrase a du sens, sauf qu'on ne le relit pas. Il faudrait effectivement que de temps en temps, régulièrement, périodiquement, on se repenche un peu sur ce serment qu'on a dit comme ça, de façon un peu, qu'on a lu en général en tremblant un petit peu, et dont on n'a pas perçu finalement tout le sens, dont on ne s'est pas forcément imprégné de toute la signification. Et c'est vrai que peut-être en prenant un peu de recul au travers de l'expérience après qu'on a acquise, en confrontant un petit peu l'expérience et la réalité, il serait intéressant de temps en temps qu'on retravaille un peu dessus.
Alors, je l'évoquais tout à l'heure, l'hôpital dans sa globalité est engagé depuis quelque temps déjà dans une réforme importante, une réforme qui a évidemment de grands enjeux économiques, concentration des services et puis nécessité d'arriver à un équilibre budgétaire des politiques de santé, ce qui a l'air bien complexe à pouvoir réaliser. Est-ce que vous pensez les uns et les autres que ça peut avoir un impact sur la façon dont les plus pauvres, et les sans-abri notamment, sont accueillis à l'hôpital, ne serait-ce que par l'éloignement géographique que peut par exemple représenter cet hôpital ou ce lieu de soins, Hans Cadelius?
Alors, je ne suis pas un grand stratège de la santé publique, mais plus dans l'action, là. Je dirais que je pense que pour l'hôpital en lui-même, les problèmes se posent, mais c'est pour tout le monde, quoi. C'est pas particulièrement pour les patients précaires. C'est vraiment un problème général. Je prends souvent un exemple un peu trivial, c'est les gobelets aux urgences. Alors, ça, enfin, voilà, on est presque rationné pour les gobelets aux urgences. Et après, on a du matériel qui coûte des milliards d'euros, des millions d'euros peut-être, un scanner ou ce genre de choses. Et à côté de ça, voilà, les gobelets, ben, des fois, on n'a plus de gobelets. Donc, il faut aller à la réserve chercher parce qu'on est... Enfin, voilà, c'est un exemple trivial, puis ça n'a pas de valeur. Mais c'est juste pour dire que des fois, c'est un peu l'incohérence du système, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va compter beaucoup de petites choses pour en arriver, voilà, c'est un exemple qui est un peu, voilà, et maintenant on a deux rames de gobelets, on n'en a plus qu'une, donc les choses s'améliorent.
Mais
voilà, c'est un peu ça.
Sur cette question évoquée à l'instant par Hans Gadelius, vous allez dépenser de l'argent pour acheter du matériel, un plateau technique particulièrement élaboré, mais peut-être renier un peu sur les dépenses et ces petites dépenses qui seraient pourtant bien utiles pour ces SDF qui viennent vous voir à l'hôpital.
C'est un petit peu, je crois, le paradoxe de l'hôpital, d'investir dans des techniques de pointe au service, effectivement, des patients pour aller de plus en plus loin dans le diagnostic, dans le traitement et dont bénéficieront tout le monde, y compris les personnes donc en situation difficile. Et ça, c'est peut-être au dépend de la qualité de la prestation, en quelque sorte, que tout le monde déplore, hein, et qu'on va retrouver au niveau de la qualité des repas, au niveau de la qualité du matériel. On mange effectivement dans des barquettes en plastique. Quand on est malade, qu'on est dans un lit, qu'on n'a déjà pas très très envie de manger, qu'on est vaseux et tout, de voir arriver quelque chose qui baigne dans une barquette en plastique et tout, c'est pas très 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 stimulant. Et pourtant, ça a un rôle extrêmement important dans la journée de l'hospitalisé. Et ça, c'est quelque chose que à l'échelon du soignant, on constate de la même façon et sur quoi on peut difficilement influer. Je crois que c'est un problème qui est très général. Indiscutablement, l'hôpital n'échappe pas aux préoccupations financières et budgétaires. Pour autant, ça ne doit pas influencer le choix du soignant. Il y a un moment ou un autre que la question qui se pose est de savoir quelle est la meilleure pratique à mettre en œuvre pour la prise en charge de ce patient. Et pour moi, en tout cas, je ne renoncerai pas à tel ou tel traitement ou telle décision pour des motifs uniquement financiers.
D'autant que cette pratique, elle n'est pas uniquement technique. Il ne s'agit pas simplement d'avoir le meilleur plateau technique de la région ou de la France entière, mais d'avoir la capacité de répondre humainement à la nécessité de l'accueil d'un patient, et notamment, puisque c'est notre sujet, des patients les plus pauvres. Perrine Malzac, vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais juste rebondir effectivement aussi sur ce que vous venez de dire. Je crois qu'une des difficultés, effectivement, elle ne concerne pas que ces populations précaires, mais probablement de façon générale l'ensemble des personnes qui ont des pathologies qui ne rentrent pas dans le standard classique qui correspond au système de financement de l'hôpital. Donc dès qu'il y a besoin d'un peu moins de technique, d'un peu plus de présence, d'un petit peu plus de justement d'approche avec des assistantes sociales, des psychologues, tout un tas de besoins de temps qui ne se calculent pas en termes de rentabilité au niveau de l'hôpital, on peut craindre que ce système qui cherche quand même une certaine rentabilité puisse petit à petit favoriser les patients qui rentrent dans le cadre, qui finalement vont être remboursés à hauteur de ce qu'ils coûtent. Et puis, pour ceux qui demandent un petit peu plus de soins, un petit peu plus de temps, un petit peu plus de présence, un petit peu plus de participation de professionnels dont l'activité est essentielle mais moins rentable, eh bien, on peut effectivement craindre que cela, quel qu'il soit, puisse être pas exclu, mais mis de côté progressivement. C'est une des craintes qu'on peut avoir avec ce nouveau système. Oui.
On écoute un extrait sonore de la matière de Terre commune, le web-documentaire d'Emmanuel Vigier, pour aborder juste après la question du lien entre l'hôpital et les services sociaux.
Ivan est mort avant-hier, à 4h du matin, dans une rue de Marseille. Quand je pense qu'on était à deux doigts de le convaincre de nous rejoindre au Hameau, un dispositif pour grands marginaux au bout de 2 ans de travail. Et quand je pense qu'entre 2 hospitalisations, c'est la rue qui l'attendait. Quand je pense que lorsqu'il était disposé à se poser quelques jours dans une chambre mise à disposition pour les 115, et quand je pense qu'il aurait pu y rester, mais que pour le 115, c'est 3 nuits et pas une de plus. Bien valoir. C'était la fin des 3 nuits du 115 et Yvan est mort la nuit suivante. Quand je pense que tout le monde savait qu'il était gravement malade et qu'il allait y rester, qu'est-ce qui est vivant en moi ? La rage.
Entre deux hospitalisations, c'est la rue qui l'attendait. Alors évidemment, ça c'est terrible. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre une pratique de soins qui a été faite et qui a été bien faite, et puis un accompagnement ensuite, une fois qu'on est sorti de l'hôpital? Comment est-ce qu'on a commencé tout à l'heure à aborder cette question, et on a vu le dévouement de l'assistante sociale qui apparemment travaille à l'hôpital Nord de Marseille. Mais globalement, comment est-ce que ça s'articule, ce suivi des patients, une fois qu'ils sortent de l'hôpital?
Il y a plusieurs cas de figure. Si, par exemple, un patient est tombé dans la rue, s'est cassé une jambe, qu'il a été opéré et qu'il a besoin de soins de rééducation, il bénéficiera d'une prise en charge en rééducation comme il le faut. Il y a des filières de prise en charge qui doivent fonctionner en rééducation, en soins de suite, en convalescence. C'est pas facile, parce qu'en général, le statut social vient un peu compliquer les démarches pour faire admettre ces patients dans ces structures. La réponse la plus habituelle et la moins satisfaisante, c'est évidemment le retour à la rue, qui se fait parfois dans des conditions absolument cataclysmiques, hein, sur des pathologies graves. Alors, on a essayé de contourner un peu le système en créant, il y a quelques années, un dispositif intermédiaire qui s'appelle les lits halte soins santé, qui est finalement la structure d'accueil pour temporiser le temps de la récupération, donc sans que ce soit ni une structure d'hospitalisation à proprement parler, ni une structure de soins de suite ou autre, ce qui est finalement, quand on renvoie parfois des gens avec une couverture sociale normale chez eux pour avoir des soins de suite, ils sont chez eux, sauf que évidemment les sans-abri n'ont pas de chez eux et qu'il faut donc leur trouver une structure intermédiaire. Mais il n'y a qu'une quarantaine de lits, je crois, surtout Marseille. Encore, on s'est battu comme des bestioles pour en avoir 40, alors qu'il n'était prévu que 30 au départ, et c'est notoirement insuffisant. Actuellement, il y a une liste d'attente qui est insupportable, parce que, effectivement, pendant ce temps-là, en plus, non seulement il y a des soins qui doivent être donnés, mais il y a également un accompagnement et du travail social qui doit être fait pour essayer de trouver des solutions à un peu plus long terme.
Et puis ne pas forcément compter que sur les travailleurs sociaux. Ainsi, par exemple, je crois à Hans Cadelius que vous allez volontiers au contact, là aussi, des malades, ou en tout cas travailler avec des travailleurs sociaux, mais en très grande complicité avec eux, et notamment d'aller dans les squats, parce que c'est là où il y a vraiment des patients qu'il faut contacter, qu'il faut rencontrer.
Donc, dans le cadre d'une intervention donc commune avec Médecins du Monde et une association qui s'appelle Nouvelle Aube, donc spéciale dédicace à Discord, s'ils m'entendent, qui sont donc des activistes du social aussi, même s'ils sont un peu des activistes du punk.
Pas incompatible.
Comme quoi, c'est pas incompatible, au contraire. Là, c'est plus orienté sur des populations alternative, vivant en squat ou dans la rue, de jeunes. Donc là, c'est un accompagnement assez spécifique qui est pas du tout où on permet aux gens de rebondir et la précarité. Là, enfin voilà, c'est plus de l'amélioration des conditions de vie, de l'accès aux soins et de la réduction des risques par rapport aux usages éventuellement qu'on peut rencontrer dans ces milieux alternatifs de substances psychoactives licites ou illicites. Oui, c'est un travail de longue haleine. Il y a des choses, mais c'est vrai que pour venir un peu sur la généralité de la précarité, faut pas oublier que les gens chacun leur mission. Donc la mission de Nouvelle Aube, ça va être justement de cibler un petit peu les choses pour pas et c'est pareil pour les urgences. C'est un peu le même problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste on a une mission aux urgences et on fait, alors ça peut paraître un peu inhumain de dire ça, mais on fait aussi ce qu'on appelle la gestion de flux, c'est-à-dire qu'on fait 180 malades par jour, des pathologies et du tri, donc on peut pas forcément être, vraiment dans une vision globale et très complète de la santé, comme l'idée du médecin généraliste, c'est-à-dire dans la perfection et l'idéal. Et en plus, on répond à l'urgence. on ne répond pas non plus, même si on essaye de faire ce qu'on peut, mais c'est vrai qu'on a des critères qui sont des critères d'urgence, c'est-à-dire et qu'on essaie d'appliquer les mêmes pour tout le monde aussi, et que ce soit quelque chose de répandu. Donc chacun a sa mission, on ne peut pas se permettre non plus, comme disait madame tout à l'heure, de rester pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, quatre, cinq heures avec une personne, ce qui se fait souvent dans les associations qui ont le temps de le faire et qui le font très bien. Mais leur mission, c'est éventuellement d'aller contourner un individu, alors que, comme je disais tout à l'heure, j'arrive aux urgences à 18h30, je m'en prends 20 d'un coup, que je vais gérer jusqu'au lendemain, et on en est en vue une cinquantaine. Donc du coup, c'est vrai que c'est... Et puis pas de gravité différente, donc avec des petits bobos, machin, les trucs. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu ça qu'il ne faut pas oublier dans ce débat, c'est qu'il y a aussi des missions, et que chaque cas relève peut-être d'un accompagnement, mais que les structures ont aussi des missions qui sont différentes, variées, pour essayer de répondre globalement, bon an, mal an... Voilà quoi, ou bien la santé des gens quoi.
On approche bientôt de la fin de cette émission. Alors je vous propose que pour conclure, on aborde quelques cas extrêmes et notamment qui posent un certain nombre de problèmes éthiques. Par exemple celui-ci, est-ce qu'on peut soigner contre son gré quelqu'un qui va mourir s'il reste dans la rue parce qu'il est gravement malade, qu'il fait très froid, même si cette personne refuse d'aller à l'hôpital? Périne Malzac, ce cas-là, comment est-ce que l'éthique répond ?
L'éthique, elle n'y répond pas en disant... Enfin, là, je pense que s'il est en train de mourir, on va le soigner parce qu'il faut l'assister. La
question, même s'il le refuse.
Même s'il le refuse, parce qu'il est mourant ou qu'il y a quelque chose à faire en urgence, justement. La question serait peut-être plus complexe si, justement, il était en situation d'avoir besoin de soins, mais qui ne sont pas vitaux. Où là, la question peut se poser encore différemment, à savoir est-ce que les conditions dans lesquelles il vit lui permettent d'exprimer complètement sa volonté, son autonomie ? Est-ce que quand il dit « je refuse », on peut l'entendre comme un refus, au même titre que n'importe qui refuse des soins et a droit à ce qu'on ne les lui pratique pas s'il le souhaite, ou est-ce qu'on va se poser la question de la capacité à se déterminer, à décider de ces personnes-là du fait des conditions particulières des insertions sociales dans lesquelles elles sont. Donc je pense qu'il y a une situation de non-assistance à personne en danger dans laquelle on va effectivement... agir parce qu'il y a un danger immédiat, et puis des situations de refus de soins dans la rue, qui sont probablement un peu particuliers du fait de ces populations, me semble-t-il, sur lesquelles à la fois on se doit d'accepter qu'elles puissent prendre en tant que personne une position sur les soins qu'elles veulent ou qu'elles refusent, mais qu'en même temps on peut penser aussi que les conditions de désinsertion sociale les amènent à avoir... un refus probablement lié à leur situation, quoi.
Et puis une autre problématique que je vous livre, et là plutôt aux deux praticiens qui sont sur ce plateau, docteur Jean, docteur Gadelius, est-ce que vous pensez qu'on va vraiment mettre en œuvre avec un SDF toutes les ressources techniques disponibles, lui faire passer un scanner, des examens particulièrement onéreux, mettre en œuvre une opération qui aura un coût technique et un coût humain important, alors même qu'on sait que ce patient, il va aller dans la rue le lendemain, qu'il est peut-être abîmé par la consommation d'un certain nombre de substances licites ou illicites, pour reprendre la formule du docteur Gadelius. Est-ce que vous engagez tous les moyens de la médecine, même y compris si c'est un SDF ?
On fait ça tous les jours, en fait, c'est en fonction de la nécessité, qui de l'urgence, quoi, par rapport aux critères qu'on a. Et là, on considère, mais alors, c'est tout genre, tout sexe, toute nationalité, toute, voilà, quoi, n'importe qui arrive. Après, se posera, enfin, de fait, à un moment donné, le problème du coût. Mais à la limite, moi, ça me regarde pas quand je suis aux urgences, quoi. C'est un truc qui ne me regarde pas.
Professeur Jean, vous êtes directeur du service, vous partagez cet état d'esprit.
Complètement, et je ne pourrais pas admettre que quelqu'un dans mon équipe puisse refuser de mettre en œuvre les moyens nécessaires parce que, ou au motif que c'était un SDF. Ça, c'est inacceptable. D'ailleurs, j'ai tendance à dire, le SDF qui arrive, le SDF ou la personne, je ferai un autre petit commentaire après, il arrive avec son étiquette, en quelque sorte, parce qu'il a été ramassé comme ça, il est cracra, machin, etc. Mais après, parce qu'il est malade, on l'oublie complètement. On oublie complètement cette étiquette SDF, parce que qu'est-ce qui va primer ? C'est l'état de santé et ce qu'il va falloir faire derrière. Et alors là, peu importe si c'est coûteux, pas coûteux et tout, il faut faire ce qu'il faut. Mais voyez, il y a un autre problème, moi je trouve, qui va encore un tout petit peu plus loin. C'est que le SDF, effectivement, il arrive avec son étiquette. Mais qu'est-ce qu'il en est de toutes ces personnes en situation précaire ou en train de glisser complètement vers la précarisation, qui ont encore une apparence à peu près convenable parce qu'elles ont une veste, une chemise et qui sont un peu propres sur eux, alors qu'ils sont en train de partir en vrille complètement. Et ça, on ne le perçoit pas.
Eh bien, merci à tous pour avoir participé à ce débat. Merci à Perrine Malzac, merci à Philippe Jean, merci à Hans Cadelius. Merci aussi à Caroline Delanoë et au service culture de la PHM pour l'aide apportée à la constitution de ce plateau. À la technique, c'était Sébastien Gély. À suivre dans la thématique autour de Terre commune, un grand entretien avec Vincent Girard demain à 17h10. Et retrouvez l'ensemble des émissions de la thématique sur radiogrenouille.com ainsi que le webdoc Terre commune d'Emmanuel Vigier sur Terre commune au pluriel. Rappel, demain 24 octobre à 20h, un rendez-vous à l'Alhambra, Ciné Marseille, à l'Estac, pour découvrir sur grand écran ce webdoc. Et puis un autre rendez-vous, samedi 27 octobre à 14h30, ils sont dans la rue, nous sommes dans la rue, rassemblement à l'appel de nombreuses associations et collectifs devant la préfecture contre les discriminations dont sont victimes les citoyens européens venant de Roumanie et de Bulgarie. Restez à l'écoute de La Grenouille. Dans quelques instants, à 19h, c'est Hang Time.